Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Je vais pas mal mettre ça à l'écran ce matin, mais ça va être dans Jean 18 que ça va se passer. Jean 18, ouais. On pourrait en parler au rap. On va en parler au rap. C'est un bon moment de parler de ça là, au rap. Super. Merci, Eric. Ça allait bien?
Oui.
Super. Alors, c'est un de mes sujets que je parle gros au mois d'octobre. Ça, j'en remarque à chaque année. Là, c'est le mois des morts qui s'en vient, le mois de novembre. C'est un mois, tu sais, à intérieur. Si j'aurais un mot à dire, c'est un mot qui est intérieur. On rentre au chaud puis on se met proche du poêle à bois. C'est un moment aussi, je pense, de gens où une période de l'année où plusieurs personnes font des dépressions parce que le soleil diminue dans sa clarté. Et on a besoin de retrouver en silence la présence du Seigneur. Et donc, c'est un sujet qui me tient bien à cœur, la puissance du silence. Pour moi, le silence, c'est le moyen par excellence pour retrouver ma paix. C'est quand que je respecte les moments de silence, les rythmes entre le silence puis le bruit dans ma vie, ça me rend plus présent ici et maintenant. Je suis moins ailleurs dans ma tête. Ma femme, des fois, elle dit « t'es pas là ». Mon corps est là, mais ma tête n'est pas là. Elle est dans mille et une choses. Ça fait ralentir le cycle de mes pensées et puis ça me rend un peu plus présent ici et maintenant dans qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça me donne aussi plus de discernement, le silence, parce que quand je suis assis dans mon lazy boy, comme ce matin, j'avais étudié hier, j'avais relu mes versets ce matin. Plusieurs des versets que je vais lire en début du message, c'est des versets qui m'ont popé quand que j'étais juste là dans mon lazy boy, les yeux fermés, puis que je réfléchissais à mon message silencieusement. Donc, ça nous aide avec notre discernement. Dans une discussion avec les autres, quand je pratique pas le silence comme je le devrais, je m'aperçois que les tensions, quand c'est une discussion qui est tendue, les tensions peuvent aller en augmentant. Parce que j'ai pas pris la règle du silence, de bien écouter puis de me taire si j'en avais l'occasion. Je sais pas ce que vous en êtes, vous, avec la discipline du silence ou parler quand c'est approprié ou encore, ou ce que vous en êtes dans votre tête. Y a-t-il un petit hamster qui tourne très, très, très vite dans la tête tout le temps, tout le temps? Vous avez peut-être l'air calme en dehors, mais en dedans, c'est comme un canard qui pédale tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous maîtrisez le silence et le pouvoir de la langue? Dans le Proverbe 15, ça dit « Celui qui est lent à la colère apaise des disputes. » Celui qui ne se fâche pas vite apaise les disputes. Hein? Proverbe 15, verset 18. La puissance du silence, c'est pas le titre de mon message, mais j'aurais pu dire aussi la puissance d'une parole qui est dite au bon moment. La puissance du silence ou une parole qui est dite au bon moment. La puissance du silence, qu'est-ce que ça fait pour nous, le silence? Prochaine acétate. C'est un bon moment de réflexion intérieure pour ranimer nos forces. Dans Ésaïe 40, au verset 30, c'est écrit « Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, et courent et ne se lassent point, et marchent et ne se fatiguent point. » Et regardez le verset d'ensuite. « Faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force. » Il y a une force dans Ésaïe 35, dans le silence et dans la tranquillité. C'est un moment pour se régénérer puis se refaire des forces. C'est un moment de réflexion intérieure. C'est aussi le silence, c'est un bon moment, c'est une façon de faire une écoute intentionnelle. C'est de recevoir avec la douceur la parole. On n'est pas en train d'attendre pour parler, on est là, puis tranquillement on écoute. Mes frères bien-aimés, dans Jacques 1,19, « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est pourquoi rejetant toute souillure. » Jésus, lorsqu'il nous parlait de la souillure, là, il disait que c'était des aliments qu'on mangeait ou les choses qu'on touchait. C'était quoi la souillure? C'est quoi qui souillait l'homme, Jésus disait? C'est pas qu'est-ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Donc, l'homme devrait être avisé d'être rapide à écouter et lent à parler. Hein? Puis il dit, rejetant toute souillure, Jacques nous dit, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes ou délivrer vos âmes. Donc, Jacques nous dit, soyez prompt à écouter. Hein? Donc, ça nous donne d'être plus là. L'autre, il te parle, puis il a vraiment l'impression que tu es là. Le silence, ce n'est pas être désassocié, là, être comme dans sa tête ailleurs. Des fois, il y a des gens qui font le silence comme un traitement du silence dans une discussion. C'est pour ça que je parle. Ce n'est pas de ne pas parler à l'autre, pas de répondre à l'autre, mais c'est d'être là et pleinement en train d'écouter. Hein? Recevoir avec douceur qu'est-ce que l'autre nous dit aussi. La puissance du silence aussi, ça vient calmer les tensions relationnelles. C'est une personne qui refuse de recevoir le virus de la calomnie. Hein? Quelqu'un qui refuse de prendre quelque chose puis de le répandre. On voit ça dans Proverbe 18 au verset 6. Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et ses bouches appellent les coups. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Hein, on s'en va à l'Halloween, là. C'est comme des bonbons. C'est... Mais puis tout de suite après, le verset dit... Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc, il parle de friandises, mais il parle aussi de bois que tu mets dans le feu, puis que tu arrêtes de mettre du bois dans le feu, puis là, tranquillement, la querelle s'apaise. Donc, ça vient calmer le jeu quand il y a des dissensions entre les individus. C'est parce que la personne, elle participe pas à la calomnie, donc elle dit non, ma bouche, elle participera pas à diviser. Celui qui rappelle les fautes divise des amis. Donc, le chrétien, de plus en plus, il veut prendre le silence au sérieux en disant, sais-tu quoi? C'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort, fait que je vais faire attention. Comment? Donc, ça vient calmer le jeu dans les relations, dans les conflits relationnels. Ça met aussi une paix lorsqu'on est en confrontation. Paix dans les conflits, parce que là, on pourrait être tenté de se défendre lorsqu'on est attaqué. Et puis, dans Proverbe 26, verset 4, c'est écrit, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Et donc, ça ne veut pas dire de ne pas parler, mais ça veut dire, ce verset-là, de parler après avoir réfléchi, après avoir laissé le silence faire son œuvre aussi. Et finalement, puis c'est pas la liste n'est pas exhaustive, c'est le résultat de ma réflexion, mais c'est aussi un focus dans les épreuves. Ça t'aide à endurer les choses qui sont difficiles à endurer dans ta vie. Ça t'aide à endurer et à garder ton espoir. Dans Lamentations 3, verset 25. Lamentations 3, verset 25. Je vous donne quelques versets en début, puis après ça, on s'en va dans Jean, puis on va rester dans Jean. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter un joug dès sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa main, il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasira d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Donc, Lamentation, c'est Jérémie qui écrit ça. lui-même a souffert beaucoup en tant que prophète de l'Éternel en Israël, un peuple qui était amené en déportation, dans la période où ils étaient amenés en déportation. Puis il a souffert beaucoup lui-même. Puis il dit, c'est bon pour le jeune, c'est bon pour un kid d'avoir des épreuves dès qu'il est jeune. Il va se tenir solitaire et silencieux. Hein? Il va avoir la bouche dans la poussière, mais il ne perdra pas toute espérance. Ça nous donne du focus dans les épreuves, d'endurer et de garder de l'espoir. Aujourd'hui, donc, vous allez essayer peut-être de faire le lien avec ce que je vais enseigner. Tous ces points-là ne sont pas dans mon message, bien sûr. Mais il y en a certains points qui se retrouvent dans la puissance du silence, dans l'histoire qu'on va lire. Ça fait quelques messages que je parle que Jésus-Christ passe par des procès religieux, puis passe par des procès civils. Et quand j'étudiais les derniers messages, puis ceux-là aussi aujourd'hui, j'étais frappé par le silence de Jésus. Non pas par les mots qu'il a dit, mais par ceux qu'il n'a pas dit. Et vous remarquerez sûrement avec moi que souvent il se fait interroger, puis Jésus ne répondit rien. Avez-vous remarqué ça? Il ne répond pas souvent. Hein? C'est dur de lui arracher des mots. Et ça m'a fait penser à ce verset-là d'Ésaïe qui dit « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a point ouvert la bouche. » Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Je le cite dans second. Ça, c'est la seconde 21. Puis je ne lis pas tout à fait ce qui est à écrit. Désolé pour ça. Donc, Jésus, Ésaïe 53, qui est écrit 800 ans avant la crucifixion, le prophète dit il était muet, il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Donc, pourquoi est-ce que c'était difficile de faire parler Jésus durant ces différents procès? Une des choses certaines, c'est que Jésus avait passé par le jardin de Gethsémané où il avait parlé avec son Père, puis il avait assumé l'obéissance, le prix de la coupe à boire. Il avait dit, Seigneur, est-ce que cette coupe peut être enlevée de moi? Mais après ça, il a dit, ne dois-je pas boire cette coupe que le Père m'a donnée à boire? Fait qu'il avait assumé le prix de son obéissance. Et Jésus-Christ n'était pas obligé de se défendre parce qu'il savait qu'il s'en allait à la crucifixion. Il n'y avait pas rien qui pouvait dire qui empêcherait la crucifixion de toute façon. La machine était partie, puis il n'y avait rien qui pouvait être changé de toute façon. Donc, on va regarder les événements ensemble, puis le titre du message aujourd'hui, c'est « Un silence qui en dit long ». Les passages sont dans Matthieu 27, 15 à 30, Matthieu 27, 15 à 30, dans Marc 15, 6 à 19, Marc 15, 6 à 19, Luc 23, 13 à 25, Luc 23, 13 à 25, et finalement, là où ce qu'on va suivre surtout, c'est dans Jean 18, 39, jusqu'à Jean 19, verset 16. On va le lire tout en allant, puis on va descendre comme ça dans le passage. Je lis avec vous Jean 18, 39. « Mais, comme c'est coutume parmi vous que je relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors, de nouveau, ils crièrent tous, « Non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. » On se rappellera dans mon dernier message que Pilate essaie de toutes sortes de manières de ne pas être obligé de condamner Jésus. Au moins 5 ou 6 tentatives qu'il va essayer pour ne pas condamner le juste. 5 fois au moins, il va dire, « Je ne vois pas les fautes que vous me dites dans cet homme-là. » Et la femme de Pilate va avoir un rêve toute la nuit, elle va avoir souffert, elle va dire, « J'ai souffert beaucoup », puis elle va faire interrompre pendant qu'il leur offre le choix entre Barabbas et Jésus. Sa femme le fait envoyer un messager pour lui dire « J'ai souffert beaucoup à cause de cet homme-là, ne sois pas mêlé à son jugement, mêle-toi pas de ce jugement-là. » Et donc, pendant ce temps-là, les prêtres vont influencer la foule, parce qu'en Israël, il y avait une mentalité que si le leader juif le croit, tout le peuple, il faut qu'on le croie. Il n'y avait pas cette idée d'aller aux Écritures puis aller voir ce que les Écritures disent. C'est le leader spirituel dit ça, on dit ça. Et là, les prêtres ont commencé à attiser la foule pour demander la crucifixion, parce que la bouche des insensés provoque des coups. Hein? Et là, lorsqu'il est revenu de parler avec sa femme, tout ça, il a dit, « Bon, lequel que vous prenez, tu sais, le roi des Juifs ou encore Barabbas? » Et ils ont commencé à crier, ont continué de crier, « Crucifie-le! » C'était une autre tentative pour Pilate de que Jésus ne soit pas condamné. C'est prenez le tueur, parce que Barabbas, il avait tué, puis il était coupable de sédition contre le royaume. Sédition, ça veut dire monter une révolte. Et donc, il était condamné à mort. Pilate, il essaie de toutes sortes de manières. Il a essayé déjà, il a dit, je ne vois aucun mal dans cet homme-là. Il l'envoyait à Hérode comme pour essayer de faire une diversion. Il a essayé de dissuader la foule en graciant un criminel, en souhaitant qu'il choisisse Jésus. Il pensait que la foule n'était pas si influencée par les prêtres, en fait, parce qu'il voyait que les prêtres, eux autres, étaient jaloux de Jésus-Christ. Et ça fait au moins trois fois depuis les messages qu'on a que Pilate dit « Il est innocent, je ne trouve rien en lui. » Et là, il va le dire encore une fois dans Jean 19, verset 1. « Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs » et lui donnait des gifles. » Chez les Romains, ou en Israël plutôt, il y avait deux sortes de flagellation. La flagellation par les leaders juifs, par le peuple juif, puis la flagellation par le peuple romain. La flagellation chez les Juifs, c'était un petit bout de bâton avec un manche en cuir. On parlait de 39 coups ou 40 coups moins 1. Pourquoi on dit 40 coups moins 1? Paul va dire dans 2 Corinthiens 11, « J'ai 5 fois, j'ai été battu 40 coups moins 1. » Pourquoi ils ne disent pas 39? En fait, c'est que la loi permettait 40 dans leur tradition, mais ils mettaient une clôture autour de la loi, donc ils se faisaient une loi autour de la loi, puis ils faisaient 40, puis ils en enlevaient un, comme ça ils voulaient être sûrs de ne pas avoir outrepassé leur propre loi. Donc ils disaient 40 coups moins 1. Le fouet, donc c'était des lanières de cuir, ça ne concernait que le dos de la personne, hein? Et Paul dit avoir survécu à 5 de ces flagellations-là. La méthode romaine, tant qu'à elle, c'est un nombre de coups illimité. Ce sont de longues poignées et de longues lanières. C'est fait pas juste pour le dos, mais pour le devant et le visage. Au bout des lanières, il y a des morceaux de métal, des os d'agneau, c'est quoi que j'avais listé, du verre, des griffes d'animaux. Et le but, il y a des boules de plomb aussi, où les boules de plomb viennent frapper d'abord, puis ensuite les morceaux de métaux ou les objets coupants viennent labourer la personne. Et donc, ça nous fait penser à un verset dans Ésaïe 54, au verset 12, qui dit « Mais tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré. » Donc, la flagellation venait chercher le visage. Et Ésaïe nous dit « Il était défiguré. » Plusieurs personnes ne survivaient pas à la flagellation romaine. Et aujourd'hui, on est entre 9h puis midi le matin, entre 6h puis midi le matin. C'est déjà la quatrième fois que Jésus souffre physiquement. On se rappelle que dans le jardin de Gethsémané, il a sué des grumeaux de sang. Hein? Et on avait vu cette condition médicale-là, que c'était une très, très grande anxiété qui a mis une pression sur ses glandes sudoripares et puis le sang a sorti par ses pores de sueur, de peau. Et il a été giflé dans la maison de Caïphe. Ça, c'est dans la nuit que ça a eu lieu. Il a été giflé pendant qu'il y avait un interrogatoire. Puis, à la sortie de cette maison-là, on lui a mis des draps sur la tête, puis on l'a frappé, puis on lui a dit que s'il était un prophète, bien, qu'il dise qui l'avait frappé. Donc, on s'est moqué de lui. Et là, on va y mettre une couronne d'épines et une robe pourpre. Et les épines en Israël, c'était de longues épines. Donc, des plantes originaires d'Israël qui étaient des longues épines, longues et coupantes. Et Matthieu 27 en donne un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé là, lors de la flagellation, après l'avoir flagellé. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il se moquait de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Il crachait sur lui, prenait le roseau et lui frappait à la tête. On continue dans notre histoire, au verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors, hein, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Et donc là, c'est rendu la quatrième fois là, que Jésus le proclame innocent. Hein? Il dit, « Jésus sortit donc, portant une couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre, et Pilate dit, « Voici l'homme. » Ça fait quatre fois. Quatre fois. Il n'y a rien fait qui mérite la mort. C'est-tu correct? On l'a labouré comme un morceau de viande. Là. C'est-tu correct? Je peux-tu comme, on peut-tu comme finir ça là? Fait que Pilate essaie comme de ne pas faire l'irréparable ou l'incontournable, le croix. Et finalement, on lit au verset 6. « Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. » N'est-ce pas encore une esquive? Est-ce que Pilate n'est pas encore en train de dire, « Je le sais que vous n'avez pas la loi pour le condamner, fait que rendez-vous coupable de faire ce que vous n'avez pas le droit de faire. » Il leur redonne, « Car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs répondirent, « Nous avons une loi, d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et écoutez bien ça. Et quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Pilate, il est plein de peur. Il a peur de toutes sortes de choses, mais là, il y a une nouvelle peur qui vient d'envahir son cœur lorsqu'il entend le mot « fils de Dieu ». Pourquoi alors? Pilate a peur de plusieurs choses. Il a peur que le tumulte qui est en train de se passer présentement, il ne soit pas capable de le contenir, puis qu'il soit vu comme un incompétent de la part de Rome, puis donc que son poste soit en jeu. Il a peur aussi de ne pas avoir condamné un ennemi, c'est-à-dire d'avoir vu qu'il y avait quelqu'un qui se faisait ennemi de César, puis qu'il ne l'a pas traité. Hein? Ça aurait fait de lui un ennemi de Rome. J'imagine qu'il a peur aussi d'avoir fait verser du sang d'un innocent, juste pour servir, comme pour apaiser la soif de sang de la foule. Il sentait peut-être mal à quelque part d'avoir fait ça. Hein. Puis Jésus a annoncé, dans la première discussion avec Pilate, il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et Pilate, il avait dit, « Ah, tu le dis donc, tu es roi. » Donc, Jésus avait dit qu'il était roi et qu'il était le roi des cieux, finalement. Et là, sa femme, entre-temps, elle a eu un rêve. Puis pour les Romains éduqués, dans la classe éduquée des Romains, quand tu avais un rêve, c'était un message qui était envoyé par les dieux. Okay? Et donc, là, les Juifs disent, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et donc, dans sa religion, on lui enseigne que les dieux enfantent parfois. D'ailleurs, quand que Paul et Barnabas étaient sur une île, dans acte 14, Paul se fait mordre par une vipère, puis tout le monde dit, il va mourir, c'est sûr, il va mourir, puis finalement, il ne meurt pas. Puis là, ils vont les appeler des dieux, puis ils vont dire, les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Donc, chez les Romains, il y avait cette idée, les dieux se font parfois des fils. Et ils sont parmi nous. Et donc, il avait peur d'avoir, probablement, il était en train de condamner le fils d'un dieu. Fait qu'il était, il avait peur. Il a eu peur. Quand il a entendu cette parole-là, il eut très peur. Et c'est pour ça que la première question que Pilate va dire est la suivante. Au verset 9. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? D'où es-tu? Pourquoi? Parce que tu es un enfant d'un Dieu au pluriel. » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Donc, la question, c'est sur l'origine de Jésus, parce que là, il a peur d'être en train de toucher à un fils des dieux. Il n'est pas en train de toucher à un fils des dieux, il est en train de toucher au fils unique du Dieu puissant. Et Jésus ne fait aucune réponse. Il ne répond pas à celui qui l'a fait battre sans justification. Il lui a déjà dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il lui a déjà dit. Et pour Jésus, parler davantage ne servirait à rien parce que Pilate ne mélange pas la foi à ce qu'il entend. Comme on lit dans Hébreux au chapitre 4, « La parole ne leur servit de rien car ils ne mélangèrent pas la foi à ce qu'ils entendaient. » Dans Proverbe 23, verset 9, c'est écrit, « Ne parle pas aux oreilles de l'homme stupide, car il méprise le bon sens de tes discours. » Si Pilate croyait Jésus, il n'aurait jamais fait battre un roi qui vient d'en haut. Donc, ils ne le croyaient pas. Et donc, parler des fois ne produit rien. Et quand parler ne produira rien, c'est une invitation au silence. Hein? Et donc, Pilate va s'impatienter parce que là, il va dire, je ne sais pas si on va le lire, je pense que oui, c'est au verset 10. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, que j'ai le pouvoir de te crucifier? » Et là, Pilate, il y a vraiment une impatience qui monte parce qu'il sait que tout dépend de lui, à savoir si le gars va vivre ou s'il va mourir. Et donc, la pression qui vient sur lui a fait éclater le bouchon. Et puis Pilate lui a dit, « Garde, c'est à moi que tu refuses de parler. Hein? J'ai le pouvoir. » Finalement, Pilate est en train de dire, « Persuade-moi que je peux te relâcher. » Parce qu'il y avait l'accusation en premier, puis venait la partie adverse, puis après ça, on faisait un jugement. Mais la partie adverse, Jésus ne l'a fait, mais jamais. Il ne se défendra pas du début jusqu'à la fin. Il ne se défendra pas. Mais il va lui répondre calmement. Il va lui répondre, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, donc il a le pouvoir de le mettre à mort, ok. Mais tu n'en aurais pas s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Donc, Jésus est en train de dire, mon Père, qui est au-dessus de toi, t'a donné une autorité, et à cause de cette autorité-là, tu as le pouvoir de me mettre à mort. C'est tout. Okay? Mais après, il dit, c'est pourquoi, et donc c'est vraiment une délégation d'autorité. Hein? Si. Après ça, il dit, c'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. J'ai souvent pensé que c'était Judas. Puis au lieu de le lire ma Bible à 100 km/h, puis là, je passe comme plusieurs heures juste sur ce passage-là, puis en lisant les commentaires des commentateurs et tout ça, j'ai souvent dit que c'était Judas, même dans mes messages. Mais en fait, est-ce que c'est Judas? Oui, c'est le grand prêtre, c'est Caïphe, le grand prêtre, qui dit, nous autres, on ne peut pas le mettre à mort, mais toi, tu peux le mettre à mort. Fait que là, ils l'ont livré comme ça. Judas l'a livré à qui? Il les a livrés aux hommes religieux. Mais il y a celui qui les a livrés. Et si on regarde un peu le grand prêtre en Israël, c'est le gars des Écritures, non? Les prêtres qui sont autour de lui, les scribes, là, les étudiants de la parole, ce sont des gens qui connaissent mieux. Et parce qu'ils connaissent mieux, ils devraient faire mieux. Et donc, ils sont redevables à Dieu encore plus. Ils vont rendre des comptes au Père encore plus parce qu'ils savent mieux. Et c'est pourquoi Pilate en sait moins et commet un moins grand péché. Il est aussi coupable, Pilate, d'un coup monté dans cette histoire-là. On se sert de lui pour condamner le juste. Mais c'est une mauviette. C'est un gars qui n'a pas beaucoup de... Il ne s'assume pas, il a peur de tout. Il a peur de tout. Fait que finalement, sa peur va l'emporter puis il va laisser quand même Jésus-Christ se faire crucifier. Donc, Caïphe, le grand prêtre, qui l'a livré, a commis un plus grand péché parce qu'il connaissait les Écritures. Lui, il a lu. Lui, il a étudié. Et lui, il savait qui serait pour être le Fils de Dieu qui viendrait sur la terre. Il connaissait tout ça. Et encore une fois, pour la cinquième fois, Pilate va encore essayer de le faire libérer. Et regardez comment les mots ajoutent une tension. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. » Et tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Et là, il y a les mots vicieux. Encore, ils jouent avec les peurs de Pilate. Hein? Tu vas être l'ennemi de l'empereur si tu ne condamnes pas cet homme-là. Et là, Pilate va s'asseoir dans son trône pour juger, puis il va tourner ça en cirque. Il va tourner ça au ridicule. Et au verset 13, il dit, après avoir entendu ces paroles, mais ça l'a escaladé, par exemple. Hein? Ça l'a escaladé. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Et Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi! » Il ne dit pas « Voici celui que vous appelez le roi des Juifs. » Il dit « Voici votre roi! » Ils s'écrièrent alors, « À mort! À mort! Crucifie-le! » Et Pilate leur dit, « Dois-je crucifier celui que vous appelez votre roi? » Non. Il dit, « Dois-je crucifier votre roi? » Et les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Tu t'imagines? Alors là, il va prendre une bassine d'eau. C'est là qu'il va prendre une bassine d'eau, puis il va se laver les mains. Et on va le voir. Ça, je pense que c'est dans Matthieu. Voyant qu'il ne gagnait rien, que le tumulte augmentait, puis lui, il ne veut pas de chicane. Pilate prit de l'eau, se lave les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nos enfants. » La bouche des insensés provoque des coups. C'est exactement ce qui va se passer en l'an 70. Donc, Pilate souhaiterait avoir les mains propres. Quand je disais que c'était une mauviette, c'est qu'il est coupable de l'avoir mise à mort. Le credo de l'Église chrétienne, c'est « Il a souffert sous Ponce Pilate hein? ». Dans le credo des premiers croyants, là. « Je crois au Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité, qui a souffert sous Ponce Pilate », etc. Donc, pour l'Église chrétienne, c'est clair. Est-ce que l'eau a pu vraiment laver son péché? Donc, est-ce qu'il a pu être sauvé? Certainement. Il y a même certaines traditions qui disent qu'il a accepté le Seigneur avec sa femme Claudia à la fin de sa vie et tout ça, puis qu'il a été, à cause de ça, expatrié par Caligula, qui se trouvait être le roi dans ce temps-là, de l'Empire romain, l'empereur de l'Empire romain. La foule a crié que son sang retombe sur notre tête, le pouvoir des mots. C'est juste Matthieu qui parle de ça, hein? Parce que Matthieu, lui, il suit depuis le début le blasphème contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? D'avoir vu que Jésus opérait des miracles, que seul le Messie pouvait faire. Les chefs religieux l'ont accusé d'exécuter ses miracles par la puissance de Belzébul. C'est plus un blasphème qui existe aujourd'hui. Et c'était d'attribuer à les miracles de Jésus-Christ à Satan, des miracles que seul le Messie pouvait faire. Ça se passe dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu est celui qui reporte ça. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que Jésus-Christ va commencer à parler de se tourner vers un autre peuple, vers les nations. Et c'est là, à partir de là que l'Église devient le projet de Dieu pour que Dieu puisse habiter dans les hommes. Ça ne se passera plus par la nation juive, mais ça va se passer maintenant par les croyants de l'Église. Okay. Excellent. Donc, le peuple a commis un péché parce qu'ils ont dit aussi la même chose que tous les leaders religieux. Ils ont dit qu'ils étaient de Belzébul. Fait que là, c'est rendu tout le peuple. C'est plus rendu les leaders, remarquez ici. Tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et qu'est-ce qui se passe en l'an 70? Oui, donc en l'an 70, Rome est tanné de cette ville de chicane. Fait qu'ils viennent raser tout ça, 1 million de personnes qui vont mourir. C'est quelque chose, hein? Pour Pilate, lui, dans le fond, il est exilé par Caligula à Gaulle, qui est à Vienne, aujourd'hui en Autriche, et il est réputé aussi avoir commis un suicide. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop là, par rapport à la tradition là, qu'il serait devenu croyant. Et je termine avec ce verset-là. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20, qui, je trouve, résume bien le message d'aujourd'hui. 1 Pierre 2, verset 20. « En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché est dans la bouche, duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté vos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. » Quel beau passage de Pierre ici. On va fermer les yeux ensemble. Aujourd'hui, on a vu la puissance du silence. La puissance du silence qui s'est manifestée dans la personne du Seigneur Jésus. Il y a eu un temps où il a parlé, il a prié. Il a demandé au Père que cette coupe soit éloignée de lui. Puis ensuite, il a dit, « Je prendrai la coupe que le Père m'a donnée à boire. » À partir de ce moment-là, il était prêt à traverser les tribunaux, le rejet de sa création, puis surtout, et au-dessus de tout ça, le rejet de son propre Père. Parce que sur la croix, il allait souffrir l'abandon du Père, le mépris de Dieu contre le péché. Il allait subir toute la colère contre le péché. Dans Ésaïe, au chapitre 50, c'est écrit, « L'Éternel m'a donné l'oreille du disciple pour que j'écoute comme écoute un disciple. » Je vais aller le lire, le passage, parce que c'est vraiment quelque chose. Ésaïe 50, je trouve que ça résume bien, vraiment bien, qu'est-ce qu'on a parlé. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Regardez, il éveille. Ça parle comment Jésus vivait comment il était un disciple en tant qu'homme sur la terre. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Hein? Silence. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai point résisté. Voyez-vous la conséquence d'avoir fait le silence puis d'avoir écouté son Père qui, à chaque matin, éveillait son oreille. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Regarde ça. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. C'est quelque chose, hein? Jésus nous parle de ce silence qu'il avait l'habitude de faire avec son Père pour être capable de rendre son visage dur comme un caillou. D'être capable de livrer son dos à ceux qui lui arrachaient, qui le flagellaient, et à sa barbe à ceux qui l'arrachaient. Il n'a pas été confus. Hein? Il n'a pas été confus. Il n'a pas résisté. Il ne s'est pas retiré en arrière quand c'était le temps de passer à la caisse, on peut dire, au paiement. Et il dit, l'Éternel m'a secouru. Donc, c'est une belle démonstration, ce passage-là, du silence, de la puissance de laisser le Seigneur ouvrir notre oreille, pratiquer le silence pour être capable d'avoir une perspective, être capable d'avoir du discernement, être capable aussi d'être fortifié. On a vu au début du message aussi que le silence, ça nous donnait de se fortifier. On a vu aussi que le manque de silence provoquait des coups sur notre propre vie. Quand on parle, on devrait se taire. Ça augmente nos souffrances. Le peuple d'Israël qui a dit que son sang retombe sur notre tête, celui de nos enfants aussi. Leur parole a provoqué des souffrances. On a vu aussi, Seigneur, que Pilate écoutait Jésus, mais il faisait juste l'entendre. Parce que s'il l'avait cru, il aurait agi autrement. On a vu que celui qui livrait Jésus à Pilate, qui était Caïphe puis les grands prêtres, avait entendu beaucoup, mais il n'avait pas écouté. Parce que sinon, il aurait reconnu le Seigneur Jésus. Et ils ont commis donc un plus grand péché. Apprends-nous, Seigneur, à la puissance du silence. Puis finalement, lorsqu'on lit dans Ésaïe 53, quand on voit que tu étais une brebis muette devant ceux qui te tondaient, que tu étais comme une brebis qu'on menait à l'abattoir et tu n'as pas ouvert la bouche, on comprend un petit peu mieux quand on lit tous les autres passages. qui dit que c'est pour nos péchés que tu as été frappé, que tu as été humilié par Dieu, tu as servi de victime à notre place. Et on t'en remercie, Seigneur. Lorsqu'on lit ce passage-là, on trouve ça difficile parce qu'on se dit que tu étais tellement défendable. Puis, il aurait dû avoir des gens pour te défendre. Mais quand on comprend que tu nous aimais tellement, que tu allais porter sur toi la peine de nos péchés, tu t'es tué pour endurer pleinement la crucifixion à notre place. Et ça, ça ne nous laisse point indifférent ce matin. Qu'on ait ton champ missionnaire, que tu n'as pas parlé parce que tu prenais notre culpabilité, tu prenais en tout cas les conséquences de notre culpabilité. On te remercie, Seigneur Jésus, pour ce silence qui en dit beaucoup sur l'amour que tu as pour nous et pour tous les hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va finir avec un chant.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.